France Inter. Le 7-9 de Patrick Cohen.
Le livre qui paraît ces jours-ci et dont nous allons vous parler ce matin devrait mettre un point final à l'un des derniers secrets de la guerre d'Algérie, la disparition de Maurice Audin, jeune mathématicien militant du Parti communiste algérien, arrêté en juin 57 par les forces du général Massu, torturé aux côtés d'Henri Allègue et jamais revu depuis. Voilà plus de 50 ans que l'armée française campe. Sur sa version officielle, Audin s'est évadé lors d'un transfert de prison. 56 ans que sa famille se bat pour obtenir la vérité. Cette vérité, vous pensez l'avoir obtenue. Jean-Charles Deniau, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et documentariste, vous publiez aux éditions des Équateurs la vérité sur la mort de Maurice Audin, après avoir réussi à faire parler, enfin, quelques mois avant sa mort, le général Ossarès, l'un des chefs d'orchestre de la contre-terreur à Alger en 57, ainsi que quelques officiers chargés des basses œuvres, comme on dit, de la torture et des exécutions. À vos côtés, pour éclairer cette période, Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Chacun connaît vos travaux d'historien sur la guerre d'Algérie. Avant d'examiner vos révélations, Jean-Charles Deniau, on aimerait comprendre pourquoi ce secret sur la mort de Maurice Audin paraît aussi lourd à porter pour l'armée française.
Parce que ce n'est pas une bavure, parce que c'est un crime d'État, parce que dès la mort de Maurice Audin, le couvercle s'est appuyé sur l'histoire et Massu, qui était à la tête de l'équipe, a fait en sorte que rien ne sorte. Et donc le scénario de la disparition, de l'évasion a été monté immédiatement et il a tenu depuis.
Mais il y a eu, Benjamin Stora, il y a eu des dizaines d'exécutions sommaires. Ossarès, lui-même, a reconnu avoir fait liquider des chefs du FLN, Ben Midi, Boumengel, etc. Pourquoi pas Audin? Parce qu'il était, parce que c'était un Européen?
Alors on peut rapprocher le cas de Maurice Audin de celui de Fernand Yvetot, qui est un autre Européen, oui. Lui aussi membre du Parti communiste algérien, qui avait été guillotiné
lui,
au moment d'ailleurs
condamné,
où François
et exécuté,
Mitterrand
oui.
était ministre de la Justice. Donc on peut comparer ces deux cas, enfin les mettre, disons, en parallèle, dans la mesure où l'un comme l'autre ont été tués, à mon sens, pour l'exemple. C'est-à-dire dans la mesure où il fallait terroriser ceux qui pouvaient aider le FLN et qui appartenaient à la communauté européenne. D'où l'énorme émotion, bien sûr, autour du cas Maurice Audin, beaucoup moins pour Yvetot, on n'a pas le temps d'y revenir, mais beaucoup moins.
On en a parlé ici même avec vous,
tout à fait.
De l'apparition de votre bouquin sur
François Mitterrand
et la guerre d'Algérie.
Tout à fait. Pour Maurice Audin, c'est différent, l'émotion a été énorme. Le comité Maurice Audin a été impulsé très vite par des mathématiciens célèbres, comme Laurent Schwarz, un historien comme Pierre Vidal-Naquet ou Madeleine Rebériou, et puis il y a eu cette émotion un peu à la façon affaire Dreyfus, hein, dans la société française de cette année-là, 57. Les familles se sont déchirées, les syndicats, les partis politiques, les églises, bref, tout le monde a été obligé de prendre position. On l'a oublié aujourd'hui. Hein, l'impact énorme qu'a été l'affaire Audin dans cette année 57, avec aussi les prises de position pour, contre de la presse, des journalistes, des médias, de journaux comme l'Express, hein, qui ont été très en pointe, ou de France Observateur, et d'autres au contraire, qui ont essayé de protéger, disons, cette l'attitude possible de l'armée française pendant cette affaire. Donc, le cas Maurice Audin a mobilisé l'opinion publique, d'où l'intérêt qu'on peut avoir 50 ans plus tard sur les conditions de son assassinat et de sa disparition. On y reviendra.
Alors, comme le disait Jean-Charles Deniau, le couvercle est resté étanche et pesant sur la marmite. Jean-Charles Deniau, il n'a pas été facile à accoucher. Ossarès, vous racontez vos visites répétées sur plus de 6 mois, ce jeu de chat et de souris avec lui. Le récit est passionnant. Il jette d'ailleurs une lumière assez différente, ou en tout cas plus complexe, sur celui qui est considéré comme l'ordonnateur de la torture en Algérie. Ce n'est qu'il y a quelques mois, juste avant sa mort, qu'il finit par vous lâcher le morceau. Oui, j'ai fait tuer Maurice Audin sur ordre du général Massu, avec l'assentiment du pouvoir politique. Ce n'était pas une bavure, une séance de torture qui a mal tourné. On a les noms des membres du commando, l'identité de celui qui a tué, le mode opératoire, un coup de couteau, le lieu où Audin a pu être enterré dans les faubourgs d'Alger. Vous y êtes allé. Vous pensez avoir eu toutes les pièces du puzzle maintenant? On n'ira pas plus loin?
Je pense qu'il est difficile d'aller plus loin. Je pense que les autorités algériennes, maintenant, devraient faire une enquête pour retrouver exactement les lieux. Mais avec le témoignage de Pierre Missiri, je pense que nous avons pu définir un pourtour autour duquel Maurice Audin a sûrement été enterré, comme des milliers d'autres, puisqu'il y avait quelques fosses entre Ziralda et Coléa vers Larba qui servaient régulièrement. Et donc ce soir-là, On pense que les gens qui ont exécuté Odin n'ont pas creusé une fosse, ils sont allés là où on existait déjà une, et c'est là qu'il a été enterré.
Voilà, on le répète, ça n'était pas, d'après ce que vous a dit le général Ossarès, ça n'était pas une bavure, une séance d'interrogatoire poussée, comme on le disait communément dans l'armée, qui a dégénéré.
Il faut savoir que le 3 juin, il y avait eu l'attentat des lampadaires. Le 9 juin, la Corniche, qui est un attentat énorme. C'était dans un dancing, pendant une... les gens étaient en train de swinguer. Les gens étaient en train de swinguer sur la piste de danse, ouais, lorsque une bombe a explosé.
Apportée par un jeune employé du dancing. Employé.
Et là, la tension était à son comble.
Oui. Et on voit dans votre livre que Massu était obsédé par l'insurrection, la part communiste de l'insurrection. La direction du FLN était à ce moment-là décapitée, et Massu était obsédé par les communistes, par ces Européens engagés dans la lutte armée pour l'indépendance. Benjamin Stora.
Oui, tout à fait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les officiers français qui mènent la bataille d'Alger contre le terrorisme sortent d'Indochine. Et ils ont le sentiment, d'avoir été trahis en Indochine et d'avoir combattu un ennemi qui était le communisme, en fait. Et ils ont le sentiment aussi d'une poursuite, d'une suite de guerre que cette fois-ci ne le perdront pas. Et leur ennemi reste le même, c'est-à-dire le communisme. D'où l'importance qu'ils accordent au Parti communiste algérien, dans la mesure où ils estiment que le FLN est incapable de fabriquer, d'organiser, de poser des bombes, etc. Ce à quoi ils se trompent d'ailleurs, par parenthèse. Mais ils n'en ont pas conscience à l'époque. Pour eux, les ennemis, l'ennemi principal, c'est le Parti communiste algérien. Et donc, par conséquent, on est dans un contexte de guerre froide. Il faut bien sûr situer tout cela. Et donc, ils vont tout faire pour arrêter, traquer, emprisonnés, torturés, ces responsables communistes. On connaît bien sûr Henri Alleg,
disparu il y a quelques mois, oui,
qui est décédé récemment. Donc on le sait, il y a eu ce témoignage d'Henri Alleg. Il y en a d'autres, bien sûr.
André Moine,
et bien sûr,
qui était la personne, le chef que recherchait précisément. Et c'était l'objet des interrogatoires d'Alleg et de Odin. Essayer de retrouver André Moine, réputé diriger le Parti communiste à Alger. On se dit pourquoi lui quand même ? Pourquoi Odin ? On a pensé à un moment qu'il y a pu y avoir erreur sur la personne et une confusion entre Alleg et Odin.
Oui, mais c'est très difficile à imaginer puisque Henri Alleg était très connu. C'était l'ancien directeur d'Alger Républicain. Sa photo était affichée à El Billard dans des bureaux. Tous les officiers, les charbonniers, les Folk, Trinquier, tout le monde connaissait la tête d'Henri Alleg. Il est difficilement imaginable que des sous-fifres aient pu se tromper en recevant un ordre, confondre Alleg et Odin. Même physiquement, ils n'ont rien à voir. Henri Alleg était beaucoup plus âgé. Enfin, pour moi, c'est une hypothèse qui ne tient pas.
Alors, Pierre Missiri, vous l'avez cité, c'est l'un des officiers...
Sous-officiers, oui.
Sous-officiers, à l'époque, il est toujours vivant. Oui. Vous l'avez retrouvé, il vous a beaucoup aidé dans ses recherches. Il livre un témoignage assez stupéfiant sur le quotidien de ces agents, de ces soldats qui exécutaient les bases œuvres.
Oui.
On en parlera tout à l'heure. Quel crédit apporter aujourd'hui aux aveux posthumes, en quelque sorte, puisqu'ils paraissent seulement aujourd'hui, du général Ossarès? Vous soulignez que c'était un homme très âgé. À plusieurs moments dans vos visites, Jean-Charles Degnaud, vous notez qu'il ne se retrouve pas très bien dans ses souvenirs qu'il a. Et puis, il a surtout cette méfiance et cette formation d'agent de renseignement qui le conduit à cacher la vérité jusqu'au bout. Donc, quel crédit apporter à ses propos et à ses aveux?
D'abord, ça a été très difficile de le faire parler. Et la facilité pour lui aurait été de dire que la thèse officielle, c'est-à-dire la thèse la plus souvent avancée, c'est-à-dire Charbonnier qui exécute Maurice Audin sur un moment de colère, ou une crise cardiaque pendant une séance de torture, c'était une thèse facilement
envisageable,
un échappatoire, la plus facile. Le lieutenant Charbonnier est mort en 1995, c'était le plus facile. D'ailleurs, le général Ossarès a tout le temps essayer de protéger Charbonnier, qui était un homme qu'il n'aimait pas. Et donc, je me suis dit, si c'est pas Charbonnier, si l'hypothèse de l'évasion, bien sûr, ne tient pas, c'est forcément plus grave. C'est forcément plus grave.
Et ce qui est plus grave, c'est qu'il finit par reconnaître que c'est sur ordre du général Massu que Maurice Audin a été tué.
C'est difficile parce qu'au départ, il préfère dire que c'est lui qui l'a fait.
Oui. En fait, il a voulu protéger Massu jusqu'au bout. Et bon, on raconte aussi la façon dont Massu a engueulé Ossarès au moment de la sortie du premier livre d'Ossarès, dans lequel il reconnaissait l'usage de la torture. Il y avait quelque chose, un tabou qui était levé. Benjamin Stora, c'est important de resituer ce contexte et le fait que Ossarès a porté beaucoup d'opprobre sur ce qui s'est passé pendant la bataille d'Alger, et pratiquement toute l'opprobre, alors que le général Massu est mort sous les honneurs avec un discours du président de la République, Jacques Chirac, pour lui rendre hommage. Bijard aussi, même s'ils ont reconnu chacun l'usage de la torture, n'ont pas assumé finalement ce qui s'était passé pendant ces mois-là.
Cette affaire Audin sur ce disparu Audin, en fait, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps, est très importante et j'allais presque dire un peu symptomatique du drame de la guerre d'Algérie. Parce que derrière le disparu Audin, il y a les disparus algériens, les 3024 disparus algériens. Plus tard, les disparus européens. Du 5 juillet 1962 à Oran, les disparus des soldats français qui ont disparu, qui étaient capturés par le FLN, eux aussi qui ont disparu. Bref, on a cette impossibilité de faire une sorte de deuil de la guerre d'Algérie par impossibilité de trouver les corps de ceux qui ont disparu. C'est pour ça que le cas Audin est si important avec les autres que je viens de mentionner. Maintenant, sur la responsabilité de l'armée, il faut aussi rendre hommage à Yves Courrière qui avait, dès 1969, sorti l'affaire sous le nom du commandant Haut et tous les détails étaient donnés dans le livre Le Temps des Léopards. Je le précise parce que...
Il est cité dans le livre de
Jean-François Deniau, absolument, mais simplement à l'époque... Yves Courrière mettait des initiales, hein, oui. Il ne mettait pas les noms de tous ces acteurs. Voilà maintenant que les noms sont posés, sont placés, et que le puzzle progressivement se reconstitue.
Et sur le fait que Massu et Bijard se soient échappés, et puis échappés à la vindicte et à...
Mais ça, vous savez, c'est encore une autre discussion, parce que c'est le problème du rôle politique de l'armée à Alger, qui prend le pouvoir, en fait, en janvier 1957, puisque l'armée concentre entre ses mains l'ensemble des pouvoirs, à la fois de police, des pouvoirs militaires et des pouvoirs politiques. Et ça, on l'a trop souvent oublié. Et l'armée qui, elle-même, portera au pouvoir quelques mois seulement plus tard le général de Gaulle. Donc on a aussi là une importance politique de cette affaire, à travers la bataille d'Alger, qui revient à la politique, enfin au sens strict du terme.
On reviendra évidemment tout à l'heure sur d'autres aspects de cette période et de la disparition de Maurice Audin. Et puis on se demandera avec vous, comme vous le faites dans ce livre, Jean-Charles Deniau, comment des hommes, des soldats ont pu être amenés à se comporter en Algérie comme la Gestapo l'avait fait en France, parce qu'il y a des récits qui sont absolument terribles. Dans votre livre, Jean-Charles Deniau, La vérité sur l'affaire Maurice Audin, et on passera un coup de fil à Josette Audin, la veuve de Maurice. Ce sera dans quelques minutes.